Et on est parti pour ma journée du dimanche au festival 48e de rue. Au vu du nombre d'échanges que j'ai eu avec différentes compagnies, il m'est difficile de m'attarder sur chaque spectacle que j'ai vu. Du coup, je remercie grandement LTOTO et son spectacle Surfing the Street et Bruno Mad pour L'amour est une courbe avec leur magnifique spectacle de clown seul sur scène. Je remercie aussi la compagnie La Première Fois pour leur magnifique travail sur des marionnettes plus vraies que nature et pour leur caravane merveilleuse, et mais aussi la compagnie Lucas Moros pour leur grandiose clôture du festival avec la tortue de Gauguin. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est un imprévu sur les horaires qui m'a conduit à 11h30 à Lilo Bonou pour voir Le Monde point à la ligne de la compagnie Tente Hâtive. Ça dure 40 minutes et c'est une adaptation de la pièce éponyme de Philippe Dorin.
De l'autre côté de la route, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? De l'autre côté de la route, qu'est-ce qu'il voit, ce petit pois? Il voit un petit garçon qui porte son baluchon. Il voit un petit garçon qui porte son baluchon. Il voit un petit garçon qui porte son baluchon.
Moi, c'est Aude Portalier et je fais partie de la compagnie Tentative.
Moi, c'est Suzy Enoch et voilà, on est basé à Grenoble.
Vous vous êtes rencontrés comment? Vous êtes que deux dans la compagnie?
Non, on est plusieurs, il y a plusieurs corps de métier aussi, technicien, scénographe, auteur également. Et nous, avec Suzy, on s'est rencontrés un peu par hasard, comme ça.
Vous êtes juste actrice, vous deux, ou vous êtes aussi metteuse en scène, vous faites d'autres choses?
Moi, je suis seulement comédienne, mais Suzy est aussi metteuse en scène.
Oui, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de mise en scène et que je me concentre plus sur le jeu aujourd'hui, mais peut-être que j'y reviendrai un de ces quatre.
C'est-à-dire, tu as quel âge? Qu'est-ce que tu as fait déjà? Qu'est-ce que tu as mis en scène?
J'ai 30 ans et j'ai mis en scène le premier spectacle de la compagnie qui s'appelle Le Dattier du Mékong, notamment, et au Conservatoire Régional de Grenoble aussi, on avait comme travaux du coup de la mise en scène, et j'ai pu mettre en scène du coup le spectacle Tentative à ce moment-là. Et un solo de clown qui s'appelait Zolbi, qui était un clown envahisseur.
Voilà. Le Monde point à la ligne, c'est un spectacle pour enfants, j'imagine, de ce que j'en ai vu. Et du coup, est-ce que c'est une exclusivité de la compagnie de faire des choses pour enfants?
Pas vraiment pour uniquement les enfants, c'est aussi pour les grands-enfants, pour ceux qui s'émerveillent. On nous a, au début, on présentait le spectacle en jeune public, et on nous a dit mais non, c'est du tout public, parce que les personnes s'identifient aussi, et ça les touche aussi à un endroit. Voilà, il y a plusieurs lectures dans le texte, qui du coup est un texte de Philippe Dorin, qui est à l'École des loisirs, qui est du coup le premier texte qu'il a mis en scène dans sa compagnie. Voilà. Philippe Dorin.
C'est un spectacle qui vit depuis combien de temps?
On l'a créé en 2021, en 2020, enfin été 2020, mais après il y a eu une petite pause qui a fait qu'on n'a pas trop tourné avec. Et du coup, depuis l'été 2021, on fait des tournées l'été justement où on se déplace dans différents départements. Et puis pendant l'année, on est plutôt sur Grenoble, enfin autour de Grenoble, voilà, entre Grenoble et Marseille.
Est-ce que l'une de vous deux peut présenter vite fait, rapidement le spectacle, savoir de quoi il parle?
Bien sûr. Alors, Le Monde point à la ligne, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu le sourire, Léo. Un jour, il rentre dans une maison dans laquelle il y a une grande armoire. Dans cette armoire, le monde est rangé. Les mers, les montagnes, tout est rangé là-dedans. Comme le petit Léo pleure, il prend un mouchoir dans l'armoire et il fait tout renverser. Et le monde s'étend. Cette maison, elle appartient à une petite dame. Et donc la petite dame montre à ce garçon, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Le petit garçon tient dans sa main le mouchoir, le dernier petit bout du monde, et la petite dame l'invite à parcourir le monde pour savoir quoi faire de ce mouchoir.
Est-ce que vous, du coup, vous avez un peu adapté à votre sauce le texte? Est-ce que vous avez des choses bien à vous? Vous avez rentré dans les personnages? Est-ce que vous avez laissé une petite marge de manœuvre pour faire des petites choses en plus?
Le texte, on n'a pas vraiment touché, il est quasiment mot pour mot. À part peut-être vraiment un ou deux mots qui nous plaisaient peut-être pas trop, mais c'est tout. Et si on n'a pas, on a enlevé l'épilogue du texte. On s'est arrêté avant parce qu'on aimait beaucoup cette fin qui reprenait le début.
Et on a apporté du coup dans la mise en scène toute cette dimension autour du papier, autour de l'origami. Voilà, dans nos costumes aussi, on a fait appel à une costumière, Colline Blanchard, qui a conçu les costumes sur cette base-là, un peu de feuilles de papier et les costumes des personnages qui rentrent dans l'histoire, la petite dame, le petit monsieur que Léo rencontre sur son chemin, sont dans des tons gris. Donc voilà, on essaie de rester aussi dans des tons naturels et plutôt blancs.
Ce n'est que mon avis personnel, mais la petite chanson qui est du début à la fin, où le petit garçon, le petit pois, il rencontre des choses, j'ai trouvé que c'était un élément qui pouvait être clairement adapté au public, suivant leur disposition, suivant ce qui se passe. Et je ne sais pas si vous y avez déjà pensé à réadapter ça, le changer totalement, et du coup avoir une chanson différente peut-être à chaque fois.
Oui, oui, bien sûr, on y a pensé. Mais au tout début, on s'est dit que c'était quand même plus simple initialement de savoir ce qu'on allait dire plutôt que d'improviser. Mais effectivement, c'est une dimension qu'on aimerait bien ajouter.
Qu'on a pu faire en flyant dans la rue, par exemple, notamment à Avignon en 2021. On a eu la chance de faire 4 jours du festival avec le spectacle. Et donc, quand on flyait, on essayait justement d'inventer justement d'autres paroles sur cette chanson, avec du coup la contrainte que c'est en rime et que ce soit 12 syllabes. Là, du coup, c'est... Mais oui, c'est juste.
Il y a beaucoup de collaboration avec le public qui est cherché, rien que pour chanter la chanson, pour avoir des petites gimmicks. Ça se passe bien en général, ça ?
Eh bien, c'est vrai qu'on a vraiment... Ça change beaucoup suivant le public qu'on a. Donc on en a qui peuvent être très demandeurs de ça et qui vont beaucoup interagir, même quand c'est pas forcément proposé, on va dire. Et du coup, ça donne une autre dimension. Et puis, il y en a effectivement qui sont assez réfractaires et qui sont beaucoup plus uniquement spectateurs. Et où, bah oui, du coup, ça rend la chose plus calme, en général. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'interactions. Ça peut être un peu frustrant. Aussi.
Et en fonction aussi des âges avec lesquels on intervient, parce qu'on intervient en scolaire aussi, quand on joue devant une maternelle, les enfants sont beaucoup plus calmes et avec les yeux très grands. Et quand on joue plutôt pour du coup des primaires, tout de suite ça va chercher l'interaction avec nous et tout ça, donc ça va être plus actif. Donc on joue en fonction du public aussi qui est présent. On a plus tendance peut-être à nous adoucir et à porter le texte de manière plus poétique quand les gens sont plus calmes et plus émerveillés, entre guillemets, enfin, dans une ouverture au texte. Et quand les gens sont plutôt actifs et qui veulent de l'action, et ben, du coup, on va complètement rentrer avec eux sur cette énergie-là.
Il a été pensé pour la rue, le spectacle, ou il se fait aussi bien en intérieur ?
Nous, quand on l'a mis en scène, c'était plutôt avec une volonté de jouer dans la rue, justement. Donc ça peut être... on peut jouer en intérieur aussi, mais il est vraiment plus pensé pour la rue ou en tout cas des lieux non dédiés initialement au spectacle.
J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je peux vous demander, par contre, si on peut vous revoir quelque part en France cet été avec ce spectacle ou un autre ?
Oui, du coup, c'est le début de notre tournée estivale. Donc après les 48e... on retourne en Isère, on joue le 12 juillet à Revel en Isère, et ensuite
on va en Corrèze, dans le département de la Corrèze, pour quelques dates. Le 16 juillet, on sera à Gourdon-Murat pour la fête du Moulin, 19 juillet, on sera au lac de Sèchemaille, le 21 juillet, on sera sur la place de l'église à Corrèze. Voilà, il y a 3 dates en Corrèze, et après...
Et ensuite, on redescend en Lozère, on rejouera en Lozère... vers Saint-Enimy, à la ferme des Champs à Montbrun, voilà, à 19h le 28 juillet. Et après ça, on enchaîne le 29 et le 30, on sera dans le Puy de Dôme.
Ça n'en finit jamais, c'est une tournée énorme.
Et surtout, pour la première fois, le spectacle Le Monde Point Ligne sera au Festival d'Aurillac. Donc on a hâte de ce moment aussi.
Bah, merci à vous, c'était un très bon moment. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à rajouter? Je sais pas.
Bon festival! Bon 48e de rue.
Merci. C'est après ma pause repas que j'ai eu la surprise, en voulant aller voir le spectacle Amor Amar, de trouver un acteur de la compagnie, seul, pour un spectacle totalement différent. L'imprévu ne fait pas de mal, au contraire, il permet de découvrir des choses surprenantes. L'histoire du crâne ou la valse de Ève, totalement absurde par le professeur allemand Wolfgang Odeux.
Voici Ève, la première créature de Dieu. Ah oui, c'était un prototype, que voulez-vous? Il n'y avait pas tout l'ensemble complet encore que l'on connaît aujourd'hui. Il y a l'évolution après, hein. Là, on est en 3,8 millions d'années avant maintenant, messieurs, dames.
Je m'appelle Guillaume, je fais donc partie du collectif MOM. Aujourd'hui, là, je viens de présenter à 14h l'histoire du crâne ou la valse de Ève, présentée par le professeur Wolfgang Odeux. Cette histoire, c'est une récréation absurde et poétique, une manière de raconter le monde assez inédite. C'est léger, absurde, décalé. Voilà, c'est une vacance, une récréation légère.
Ce spectacle, du coup, il n'était pas prévu du tout dans le programme du festival. Comment ça se fait qu'il soit là? Et est-ce que, du coup, ça a quand même fonctionné, même s'il n'était pas prévu?
On est venu avec le spectacle Amor Amar au 48e de rue. Ils avaient proposé de nous programmer deux fois par jour à 14h et à 18h. Et comme il y a un comédien qui vient de reprendre le rôle, il préférait jouer qu'une fois. Il trouvait que c'était un peu compliqué de faire deux représentations par jour au niveau physique. Du coup, j'ai proposé à l'Orga la semaine dernière de remplacer notre trio Amor Amar par mon solo. Et donc oui, y a des gens qui venaient en pensant voir autre chose, et donc ils avaient la bonne ou la mauvaise surprise. Mais comme on rejoue notre spectacle à 18h tout à l'heure, ils peuvent quand même venir voir le spectacle plus familial qui est écrit plus pour la famille Amor Amar.
C'est un spectacle qui existe depuis quand? Qui l'a fait? Est-ce que c'est toi qui l'as fait de A à Z? Est-ce que tu as été aidé? D'où il sort ce spectacle?
Ce spectacle, il sort du fait qu'on a construit avec le collectif MOM, avec Léa et Féo, on a construit une caravane qu'on a désossée et réaménagée complètement, qui s'appelle le Laboratoire Originel, dans lequel elles ont mis des tableaux, des sculptures qui seraient des créations des origines du monde, une fable plastique de toute l'histoire de l'humanité, mélangée avec la religion. C'est un musée du Glokokitch. Donc on a fait une caravane et on faisait visiter les gens dans ce musée. Donc ils pouvaient faire, c'était un entresort qu'on sortait pour des concerts, des expos, des choses comme ça. Et les gens, avec une musique étrange, ils allaient visiter ça et ils s'amusaient bien là-dedans. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, je vais faire le personnage de le créateur de cette caravane. Donc j'ai commencé à triper sur un Allemand qui fait de la science. Et grâce à la langue allemande que je ne connais pas, mais je fais de l'accent par mes connaissances de mon allemand de collège, je me suis amusé et ça m'a fait aller ailleurs dans la langue, dans la grammaire. Du coup, ça m'a fait réinventer ma propre langue. Et du coup, il y a des jeux de mots qu'il n'y a que Wolfgang qui a pu inventer et absolument pas Guillaume. Et c'était une chouette découverte pour ça, quoi. Et du coup, j'ai tout écrit seul. J'ai bossé un petit moment avec Léa et Féo, énormément seul. Aussi, une fois avec Colline Trouvé de Marseille, qui était sur le clown, qui m'a fait plus travailler le clown. Et donc, avec Léa Mann et Féodora Nikolzeff, on avait travaillé le personnage de départ et donc une construction de spectacle.
C'est un spectacle qui a demandé, j'imagine, quand même pas mal de travail, que ce soit à l'écriture ou même à la création du personnage, rien que ça. Une idée du temps que ça t'a pris? Parce que j'imagine de toute façon que c'est un truc qui est toujours en travail et il est toujours en développement, mais...
Je pense autour de 5 ans que le personnage existe, qu'une idée du spectacle a commencé, peut-être même 7. Le problème, c'est que je me suis souvent fait passer en dernier, du coup j'avais d'autres activités que je faisais passer avant, la vie de famille, les organisations de concerts, les hebdos de l'été, des choses comme ça. Et me vendant pas assez bien, je le répétais juste avant de venir le jouer, donc il y a des moments où... j'ai dû le travailler 7 jours dans l'année, d'autres moments où j'ai dû le travailler plutôt 60. Je suis même pas sûr que j'ai déjà fait ça une année, de le travailler 60 jours. Il y a un moment, je l'ai boosté plusieurs fois en travaillant plusieurs semaines dessus pour finir de l'écrire. Et là, à chaque fois que je fais des répètes avant de venir le jouer en public, si j'ai des nouveaux jeux de mots, des nouveaux petits trucs, je les note. Mais il n'y a plus grand-chose qui bouge. Après, je me permets toujours des impros... parce que j'adore ça et que ça me nourrit, de rebondir avec ce qui se passe avec le public, les petits mouvements, des petites erreurs du technicien qui sont des vrais cadeaux pour moi. Voilà, tous les accidents sont des cadeaux.
Où est-ce qu'on peut te retrouver cet été?
Alors le collectif MOM, on est basé à Vébron. Pour ce qui est de Wolfgang, il jouera à Castelbouc deux fois, le 16 juillet au 5 Arches et le 29 juillet au restaurant Louclos. À Moramar, on jouera le 13 août à Florac, le 14 août à Vébron et le 15 août à Castelbouc, encore au restaurant Louclos. Et puis entre-temps, le collectif MOM organise les hebdos de l'été. Donc on reçoit 5 groupes dans l'été sur les Cévennes, Florac et Quézac. Donc en tout, il y aura une quinzaine de concerts. Et sur Storga, l'idée, c'est qu'on fait venir un groupe 3 jours d'affilée. Le mardi en Vallée française, le mercredi sur Florac, le jeudi autour de Pont-de-Montvert ou Quézac. Tous les programmes, ils sont sur collectifmom.org.
Merci. Mon seul spectacle en déambulation du festival, ça a été Monique sur les crêtes de la compagnie Belle Pagaille. Il m'a valu 24 heures de colocation avec une tique, mais je ne regrette rien.
Vous allez faire ?
Alors je suis Capucine Mandeau et je suis comédienne, metteuse en scène et autrice et dans la entre autres dans la compagnie Belle Pagaille, voilà, avec le spectacle d'aujourd'hui, Monique sur les crêtes.
Est-ce que tu peux me présenter la compagnie un peu, son histoire, depuis quand elle existe, combien vous êtes?
Alors la compagnie existe depuis 2004. C'est une compagnie qui n'a pas vraiment de troupe ou de ligne artistique, c'est un peu se mettre une balle dans le pied de dire ça, mais en fait ça fonctionne vraiment au projet, et des projets vraiment très très différents. Ça peut être du cirque dans la rue, ça peut être un spectacle musical sur les arbres, ça peut être un Roméo et Juliette en bilingue, ça peut être une installation sonore dans un salon de coiffure, ou comme là, un spectacle en randonnée. Donc ça change vraiment selon les équipes et les projets de création.
Pour mettre un peu les bases, est-ce que tu peux présenter Monique sur les crêtes?
Donc Monique sur les crêtes, c'est l'histoire de Monique, une dame de 80 ans qui a disparu. Et comme elle a disparu, eh bien, il y a sa fille Caroline, il y a son neveu Jérémy, il y a son aide à domicile Mélissa qui vont partir à sa recherche.
Le projet, il est né quand? Et ça fait combien de temps qu'il tourne? Combien de fois il a tourné?
Alors, le projet, il est né... c'est une bonne question. Je dirais 2018-2019. Vraiment, on a commencé l'écriture. On était 3 au départ à l'écriture. Léa Goud, Pierre-Damien Traverseau et moi, Capucine Mandeau. Et on a fait des classes vertes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés pour marcher et pour écrire. Et donc ça a mis du temps à maturer. Évidemment, le Covid est passé par là, comme pour tout le monde. Et ça a mis aussi, ça a décalé le temps de création, qui a commencé du coup après ça. Et ensuite, voilà, il a été créé pour 2022. Donc en fait, c'est un spectacle qui a un an. Donc il a tourné l'année dernière, on était dans le Yin à Aurillac, donc on a eu beaucoup, beaucoup de chance d'être très soutenu. On a été soutenu par la région Occitanie et bien par Aurillac, le parapluie, tout ça, qui nous ont vraiment fait un beau soutien. Puis aussi par d'autres gens comme le Club des Six, la Transverse. Voilà, c'était vraiment chouette comme ça de pouvoir créer avec ce soutien-là.
Spectacle en déambulation, ça demande un peu de préparation puisque c'est jamais au même endroit, il y a besoin de faire des repérages. Ça prend combien de temps des repérages pour ce spectacle?
Ça dépend un peu des lieux et de l'équipe organisatrice. En général, on envoie une fiche technique suffisamment détaillée pour que l'équipe organisatrice puisse faire un premier repérage, nous envoyer des vidéos, des photos. Si on n'a pas possibilité de venir sur place, c'est possible comme ça. Du coup, on arrive la veille ou l'avant-veille on voit le pré-repérage qu'on a vu en vidéo et en photo, on dit c'est bien, c'est pas bien, ou on va changer des choses. Et ensuite, on... effectivement, ça demande un petit peu une création in situ, c'est-à-dire vraiment de pouvoir réimaginer cette histoire dans un autre décor, une autre scène.
Dans le spectacle, il y a beaucoup de références des mouvements qu'il y a eu récemment. On peut citer les problèmes dans les EHPAD. C'est des sujets qui vous ont touché pour inspirer le spectacle ou c'est juste des éléments qui auraient pu être... D'où ça vient, ces éléments-là?
Oui, effectivement, on a déployé des choses qui nous touchaient et dont on avait envie de parler. Quand on a commencé à créer le personnage de l'aide à domicile, forcément, on s'est intéressé à ce que c'était leur vie et ça nous a vraiment intéressé de déployer ça et de vraiment d'être au plus près de ce que ça peut être. Et puis forcément, on se s'est retrouvé avec cette question que pouvait se poser Caroline de qu'est-ce qu'on fait d'une personne âgée dont on sent un déclin et qu'est-ce qui se passe. Et finalement, tout le monde arrive à cette question-là à un moment ou à l'autre de sa vie. Donc voilà, ça nous intéressait, c'est une question qui touche tout le monde.
Et il y a un parti pris dans un message à faire passer côté des personnes âgées ou c'est libre à chacun de prendre son parti pris derrière, de vaut mieux remettre la personne âgée en maison de retraite ou la laisser gambader dans la nature?
Oulala, alors là, loin de nous de vouloir faire des leçons de morale et de vouloir expliquer aux gens comment ils doivent vivre leur vie ou gérer leur famille. Au contraire, on essaye de poser des questions assez ouvertes pour que en fait, les gens repartent avec ces questions-là et qu'ils trouvent leur chemin là-dedans.
Tu disais tout à l'heure, quand on discutait un peu comme ça, que les rôles n'étaient pas fixes. Vous échangez les rôles dans le spectacle. Comment ça fonctionne?
Eh bien, en fait, on est en binôme sur le rôle de Caroline. Il y a Cecilia Schneider, que tu as vu tout à l'heure, et moi. Sur le rôle de Mélissa, il y a Léa Goud et Léa Marchand. Sur le rôle de Jérémy, il y a Pierre-Damien Traverso. Et Pierre-Damien Traverso. Voilà. Et du coup, ça permet. Enfin, déjà, c'est une grande richesse de travailler avec d'autres personnes, de voir d'autres personnes prendre ce rôle et puis de le prendre à son tour. Enfin, ça fait bouger des choses. Et puis, c'est aussi très pratique, à vrai dire, parce qu'on refuse moins de propositions, on en refuse quand même, mais on travaille chacun aussi avec d'autres compagnies. Du coup, tout le monde n'est pas toujours disponible. Ça permet de redistribuer à chaque fois selon les besoins.
Ma dernière interview de la soirée, c'était pour Hamlet en 30 minutes de la compagnie Le Bruit qui court. Une véritable démonstration de force pour ce qui est du spectacle vivant.
Nous sommes au château d'Elseneur au Danemark. Deux gardes ont invité Horatio, l'ami respecté du prince Hamlet, pour lui révéler ce dont ils ont été témoins la nuit précédente et qu'ils considèrent comme un mauvais présage pour le royaume. Un spectre avait apparu.
Alors moi c'est Luc Miglietta, la compagnie s'appelle la compagnie Bruit qui court et je l'ai créée il y a plus de 20 ans. Il y a 20 ans parce que 2023 c'est les 20 ans de la compagnie avec une comédienne qui s'appelle Estée Sabatier qui autrefois travaillait sur Hamlet mais qui maintenant fait moins de tournées mais qui continue à travailler avec nous. Et voilà, c'est une compagnie qui a développé plutôt l'impro, le travail sur l'impro, sur la liberté de jeu et surtout sur l'interaction avec le public et qui a l'habitude de casser le quatrième mur théâtral, c'est-à-dire, il n'y a pas quatrième mur, même en théâtre on casse le quatrième mur, on est souvent en relation directe avec le public.
J'ai vu il n'y a pas longtemps Platonov en 11 heures. Du coup, voir Hamlet en 30 minutes, ça paraissait une évidence. D'où est venue l'idée? J'imagine que déjà, il faut avoir un grand amour de la pièce pour la refaire, la retravailler. Comment c'est né?
Tout simplement, on voulait s'attaquer à Shakespeare, à Hamlet, qui est la pièce que tout le monde jouait, puisque la pièce la plus jouée dans le monde. Mais bon, on était une petite compagnie, on n'avait pas beaucoup de moyens. J'ai dit, 36 personnages, des décors et tout. Et en fait, on a créé un cabaret un soir, qu'on a joué pendant plus de 2 mois. C'est un cabaret de petite forme. On recevait 80 personnes dans un théâtre et on faisait plusieurs. On divisait le public en 15, 30. Il y avait plein de petites formes toute la soirée. Et à la fin, on réunissait tous les spectateurs dans le théâtre pour voir Hamlet en 30 minutes. C'était l'idée. Mais on n'a jamais réussi à le faire en 30 minutes. Déjà, il n'y a aucun comédien dans la compagnie qui est capable de tenir le rôle d'Hamlet. Donc on va en mettre 3 qui vont prendre le rôle d'Hamlet. Et puis moi, comme je suis un électron libre, je me suis dit, je vais être le narrateur et je vais faire ce que je veux. Pendant que vous allez faire du texte shakespearien. Oui, et puis ce qui est assez intéressant avec cette pièce, c'est qu'au départ, on n'a pas voulu la vulgariser, tu vois. On s'est amusé avec. Mais au bout d'un moment, on a commencé à la présenter, tout ça, et puis on s'est rendu compte que quand on jouait dans les espaces publics, en extérieur, dans les festivals de rue, bah, d'un coup, il y avait des enfants, il y avait tout le monde. Puis à la fin du spectacle, il y avait des enfants qui jouaient à Laërte, Hamlet. Donc finalement, sans vraiment connaître ou même savoir ce qui se passe dans la pièce, ils avaient déjà les bases de l'histoire. Donc en gros, les gens, ils repartent quand même avec une image de l'œuvre de Shakespeare qui est quand même assez pesante.
Si je reviens un peu sur la compagnie, vous êtes combien? Qui tient quel rôle? Est-ce que le metteur en scène change suivant le spectacle? Comment ça fonctionne?
Non, moi je suis donc... on est deux à l'origine de la compagnie. Et moi, en général, ça va quoi? Moi, en général, il y a un troisième personnage qui vient d'arriver autour du micro. Et en général, c'est moi qui lance les idées. Et voilà, je lance les idées et puis j'appelle une équipe. La compagnie, on est 12-15 à peu près. Donc, parce qu'il y a plusieurs spectacles. Les spectacles vont de maximum 5. On a eu des spectacles où on était 8. Bon, c'est plus difficile à tourner. Mais là, en ce moment, c'est 5. On a un spectacle à 4, un à 3. Et un où je suis tout seul.
Le rôle d'Hamlet, il y a déjà 3 personnes qui le font. Il est interchangeable? Est-ce que c'est toujours les mêmes acteurs en Hamlet?
Non, ça tourne. On a un musicien avec banjo, un musicien avec accordéon. Et puis après, on a 2-3 filles qui ont le rôle de Hamlet.
J'ai vu le narrateur arriver au début, je m'attendais à un narrateur à la Brecht, très, très cassant le quatrième mur, mais au final je me suis retrouvé avec un clown en face. Et d'où vient l'inspiration du coup? D'où vient l'inspiration du narrateur? Elle est née de quoi?
En fait moi j'ai aucune formation, je viens de l'impro, donc j'ai beaucoup improvisé. Et puis après je me suis intéressé au clown, mais après je me suis dit non, je suis pas du clown. Et finalement il fallait mettre un mot. Vous êtes quoi? Ah, du clown. Oui mais j'ai pas de nez rouge. Ah, alors vous êtes pas un clown nez rouge, ok. Donc, et après, si tu fais autre chose, on te dit « Mais non, mais vous faites du clown, vous faites pas autre chose. » Donc, c'est très compliqué. Il faut vraiment s'identifier, notamment pour les programmateurs, notamment pour la presse, tout ça. Donc, j'ai mis le mot « clown », mais après, on l'a transformé en « clownesque », « burlesque ». Mais moi, ma grosse inspiration, c'est l'absurde, le décalage britannique, en gros. Les Monty Python, tout ça, moi, j'aime beaucoup.
Les rares qui ne connaîtraient pas Hamlet, c'est normal que ce soit aussi drôle?
Mais c'est ce qui est génial avec Shakespeare, c'est pour ça qu'aujourd'hui Shakespeare, on le met au cinéma, il inspire des séries, il a inspiré Walt Disney. C'est parce que c'est dans ses pièces, il y a du surnaturel, il annonce tout dès le départ. Il y a un spectre qui arrive, qui dit « Salut, je me suis fait tuer par mon frère, vas-y, maintenant débrouille-toi ». Enfin voilà, ça, c'est hyper, c'est toujours d'actualité. Et puis il travaille sur le pouvoir et sur le côté horrible de l'être humain. Et ça c'est super intéressant. Et ça sera toujours intéressant.
Bêtement, j'ai pas demandé, mais elle est née quand cette pièce? Enfin, depuis quand elle tourne et elle tournera encore combien de temps?
2007. Donc depuis 2007. Et puis écoute, puisque eux sont interchangeables, tu vois, le musicien va peut-être mourir, il est vieux maintenant. Donc ils sont interchangeables, donc ça va. Après moi, il faut voir si je suis interchangeable un jour. Mais l'idée quand même, c'est un jour peut-être de la confier à une autre compagnie, pourquoi pas. Ou tu vois, une jeune compagnie qui a envie de monter le projet.
La mettre en bouquin du coup ou juste la...
Non, c'est pas notre ambition, non. Non.
On sait jamais.
Je sais pas. Ça c'est compliqué parce que vraiment, moi, je travaille pas sur l'écriture. Enfin, je fais de l'écriture, si tu veux, mais j'écris rien. Je suis, tu vois, j'ai pas de notes. Je pense que quelqu'un peut se la réapproprier, mais ça sera différent. Ouais.
Oui, du coup, c'est une compagnie. Dans la compagnie, vous faites exclusivement des reprises ou c'est très varié?
Pas du tout. On a fait Hamlet il y a à peu près 17 ans et après, on a exploré plein de trucs. On a exploré beaucoup de choses. À un moment, on travaillait vraiment avec un théâtre magnifique à Montpellier qui s'appelait le Théâtre de la Vista. Et c'était un lieu où on pouvait travailler en co-réalisation. Et donc, on avait des fois 15, voire des fois un mois de représentation. Et là, on faisait des expérimentations. On a fait des spectacles à 14 sur le plateau, tout ça. Et les plus beaux spectacles qu'on a fait, finalement, c'est des spectacles qu'on n'a pas pu tourner parce qu'ils étaient trop, trop énormes et trop de personnes sur le plateau. Mais non, c'est pas notre spécialité. Effectivement, là, on a fait un Othello parce que ça fait longtemps que je travaille sur Othello. Mais après, on a fait le King of the Kingdom qui n'a rien à voir. Et puis, Amphitryon, c'est une grosse connerie, quoi. C'est un truc qui... C'est l'histoire d'un comédien qui vient du théâtre et qui s'est fait virer du théâtre et qui doit découvrir ce qu'est le théâtre de la rue. Voilà, il faut de tout, hein. Il faut du beau théâtre, il faut du texte. Mais là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est du texte, mais aussi, un texte et aussi de l'interaction qui fait que le public il a l'impression de vivre une histoire unique. En plus, chaque spectacle est différent parce que l'interaction est toujours différente. Donc les gens... Et là, on a joué 2 fois ici. Donc il y avait plein de gens qui étaient déjà venus voir le spectacle la veille. Alors pour nous, c'est une difficulté parce qu'on s'est dit « Ah merde, il y avait des enfants au premier rang qui étaient là hier ». Donc on se dit, voilà, ils vont nous spoiler. Et du coup, on essaie toujours de faire différent, de réagir à ce qui se passe autrement, quoi. Donc le spectacle est toujours... Il se passe toujours quelque chose de nouveau, pratiquement. Là, aujourd'hui, il y avait un juge de ligne sur la partie tennis qui n'avait pas hier. Il y a la fameuse tourterelle qui est passée. Il y a un enfant que j'ai pris dans les bras. Enfin, voilà, il y a plein de choses.
Bah, merci beaucoup, c'était superbe. Et à une prochaine dans
merci,
un festival.
Merci, c'est ce que je disais, c'est le spectacle vivant. Le spectacle vivant, normalement, bah, tout peut arriver, quoi. Il est vivant. Et merci à la 48e de rue.
Le festival 48e de rue est donc clos pour cette année. Mon week-end d'amende a peut-être été épuisant, mais c'était merveilleux et c'est certain. Je serai à nouveau présent l'an prochain.